Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, en ce lundi, bien, nous recevons David Terrien-Brogaud du duo R pour le concert Miceo. Vous vous demandez ce que c'est, peut-être vous voulez en savoir plus, et bien ça va être dans un instant. Deuxième partie d'émission, ben, notre chroniqueur du lundi, Jamin Stouki. Bonjour Jamin.
Bonjour à vous, bonjour les auditeurs.
Alors là, ça fait peur un peu parce que son billet d'humeur a pour titre « Folie végane ». Je suis comme vous, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on attend. On le saura dans la deuxième partie de l'émission.
Tout à fait. Je fais toujours des titres un peu bizarres.
Maestro. Alors nous sommes avec David Terrien-Brogaud. Bonjour David.
Bonjour, bonjour.
Du duo R. Alors qu'est-ce que c'est le duo R? Racontez-nous la rencontre et ce que vous faites, parce que vous occupez des percussions, c'est ça?
C'est exact. Donc le duo R, c'est un duo de deux musiciens, donc moi-même à la percussion et Louis-Philippe Bonnet au saxophone.
Oui.
Puis nous, on est des musiciens de formation classique. Et donc, on interprète du répertoire du 20e et du 21e siècle, donc du répertoire classique contemporain pour nos instruments.
Alors, pour bien comprendre, avant qu'on parle du concert, ce que vous cherchez à nous faire rencontrer et à nous faire connaître un petit peu plus, c'est les musiques qu'on peut trouver, comment dirais-je, pour aller plus loin dans ce que peuvent faire ces instruments, dans ce que peuvent faire ces instruments.
C'est exact. Parce que souvent dans le milieu classique, la percussion, on va penser à la percussion en orchestre, donc au triangle, au timbal,
oui,
à la caisse claire. Mais nous, on utilise vraiment la percussion de façon très large là, et avec des grosses installations de percussion. Et même chose de saxophone. On pense souvent au saxophone jazz, mais le saxophone classique a une certaine place dans l'orchestre au 21e siècle. Mais ici, on l'exploite vraiment en solo et comme un instrument assez prédominant dans le duo. Là.
Alors, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de ce duo?
Nous, on a fait nos études à l'Université de Montréal. La première fois qu'on a collaboré ensemble était en 2013. Puis c'était une pièce qui s'appelait R, donc A-I-R-S, du compositeur français Philippe Leroux. Puis ça avait bien été, c'était dans le cadre d'un cours de musique de chambre à l'université. Puis on s'est dit, on a vraiment du plaisir à jouer ensemble, continuons. Puis ça fait maintenant 9 ans qu'on collabore ensemble. On a fait une tournée en France, on a fait une tournée des Maisons de la Culture et différents événements comme ça.
Alors, quand on étudie, alors je sais pas, hein, parce que j'ai pas étudié la musique classique, alors peut-être que ma question va vous paraître toute simplette, mais quand on étudie en musique classique, comment ça vient, d'où vient cette curiosité de faire cette recherche-là?
Moi, ma curiosité personnelle pour la musique contemporaine, elle vient du fait que, et autant j'adore l'orchestre, je joue beaucoup en orchestre aussi, mais
oui,
souvent la percussion en orchestre, on joue pas beaucoup.
Oui, c'est vrai, faut reconnaître.
On peut attendre parfois 30 minutes avant de jouer une note de triangle à l'orchestre. Je dis j'adore, là, je joue parfois avec l'orchestre métropolitain notamment, mais je voulais vraiment explorer la percussion contemporaine, la percussion soliste, et explorer ça. Et puis c'est un peu la même chose du côté à Louis-Philippe aussi. Même chose à l'orchestre, on retrouve pas souvent le saxophone, donc souvent les saxophonistes vont se retrouver à jouer beaucoup de musique de chambre, à explorer la musique contemporaine, puis on s'est retrouvés comme ça. Puis une autre des facettes qu'on adore, on joue beaucoup d'œuvres de répertoire déjà écrites, mais on fait aussi beaucoup de créations, donc on travaille directement avec les compositeurs, les compositrices, ce qui est très intéressant parce qu'on a des œuvres qui sont écrites pour nous.
Ah, d'accord.
Ce qui n'est pas le cas quand on fait de la musique classique du 19e, par exemple, du 19e siècle, parce que bien sûr, les compositeurs ne sont plus parmi nous.
Oui, c'est ça aussi. J'ai mon collègue qui a une question pour vous.
Oui, pour un néophyte comme moi qui n'y connaît absolument rien, comment vous définiriez ou comment vous définissez la musique contemporaine? Comment pouvez-vous nous l'expliquer?
Oui, ben, grosso modo, la musique contemporaine, c'est un terme assez vague. Là, même à l'interne, des fois on appelle ça les musiques nouvelles, des fois on appelle ça les musiques actuelles. Donc il y a différentes tangentes à l'intérieur même. Mais grosso modo, c'est la musique classique du 20e et du 21e. Et particulièrement la musique d'après-guerre. Donc la musique contemporaine, c'est le mouvement, le courant musical depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui et demain, si on veut.
D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre la musique contemporaine et de la musique expérimentale? Est-ce que c'est un segment de ça? C'est différent?
Ça se recoupe effectivement beaucoup parfois, oui. Parce que des fois, on va appeler ça la musique d'avant-garde, par exemple, avec
oui,
tout ce qui est... ou même le mouvement Fluxus, le dadaïsme avec John Cage... et d'autres artistes à New York, avec Yoko Ono, qu'on connaît par d'autres moyens, par d'autres courants, mais qui rentrent aussi dans le grand monde de la musique contemporaine, d'une certaine façon.
D'accord. Et c'est une musique qui comment je pourrais dire, où c'est une recherche, c'est des choses qui
vous viennent. Il est chercheur, c'est justement ce que j'allais lui demander.
Je t'ai devancé.
Tu vois, ouais. Bravo.
Exact, oui, il y a beaucoup de recherches. Donc, la musique contemporaine du 20e siècle, elle est née Il y en a eu beaucoup à travers le monde, mais le courant qu'on connaît le mieux vient de la France, de l'Allemagne. Puis c'était beaucoup des compositeurs, c'est des chercheurs aussi. Puis dans les années 50, 60, 70, il y avait des centres de recherche, ils existent encore, mais c'est les années 50, ils ont créé ces centres de recherche-là, que ça soit un festival d'été à Darmstadt en Allemagne, ou l'Institut de recherche en coordination musicale, PRICAM, à Paris. Ce sont des centres de recherche. Donc, eux, ils recherchaient vraiment différentes façons de traiter le son, que ça soit acoustiquement ou électroniquement également.
Donc, c'est ça que ça regroupe quand on dit de vous que vous êtes un chercheur aussi, c'est ça?
Moi, c'est différent. Moi, je ne compose pas. Donc, moi, ma recherche à moi, elle est vraiment du côté de l'interprétation. D'accord. Donc, ma recherche à moi de doctorat, je me penche sur l'histoire de la percussion contemporaine au Québec, en fait. Donc, moi, mes recherches sont un peu différentes de la recherche musicale à proprement dit. C'est un peu historique, ma propre recherche. Mais c'est différent des compositeurs qui sont des chercheurs.
Et est-ce que vous aussi, vous donnez des cours?
Moi, je donne cours, oui. J'enseigne en privé, j'enseigne l'été à l'Académie internationale du domaine Forget, puis je suis chargé de cours à l'Université McGill en ce moment.
Ah bah bien occupé. Alors, on va écouter un autre morceau, vous nous en parlerez dans un instant.
Parfait.
Et puis, on revient avec vous tout de suite après.
Parfait, merci.
Et voilà, nous sommes revenus avec David Terrien-Brongo. David, qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
C'était la pièce Saksala du compositeur Uroš Rožko, que Louis-Philippe et moi avions interprété en 2015, 2016.
D'accord.
J'aurais une question, oui. Du coup, parce que je viens juste de tilter, donc c'est des chansons qui sont, enfin, des chansons, des musiques qui sont écrites.
Des musiques écrites, oui.
Comme, mm-hmm. Elles sont écrites comme des musiques, je vais dire, classiques, avec des notes. Et comment vous faites pour pouvoir après reproduire, vu que c'est des sons, la manière de percuter les objets?
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un des gros enjeux de la percussion, notamment pour le saxophone. C'est bien sûr, c'est une partition, mm-hmm. comme on peut se l'imaginer, oui. avec les notes. La percussion, effectivement, donc... À chaque fois qu'on a ces instruments-là qu'on dit à son indéterminé, donc quand on joue, par exemple, du marimba, du xylophone, c'est écrit comme une partition de piano. Par contre, dans cette partition-là, donc il y avait une première partie où on entendait du vibraphone, donc ça, c'est écrit comme un instrument, comme des notes de piano. Mm-hmm. Puis effectivement, donc la section suivante qu'on vient d'entendre, où c'était vraiment des sons métalliques, mm-hmm. Ce sont des petits instruments qui s'appellent des gongs d'opéra. Puis ils sont disposés à plat. Puis dans notre partition, les notes se retrouvent sur les lignes. Donc on doit associer, par exemple, la note de do à telle grosseur de gong, et la note de ré à telle autre grosseur de gong.
Ça va être plus visuel qu'une note écrite.
C'est exact, c'est assez visuel. Donc il faudra réapprendre à lire à chaque fois également la percussion. Donc chaque fois, c'est une installation, comme on dit, différente. Donc, on peut avoir 5 tambours, ou on peut avoir 2 cymbales, 2 blocs de bois. Puis, les instruments sont disposés sur la partition d'une façon complètement nouvelle à chaque fois, en fait.
OK.
Bah, merci, en tout cas, de nous l'expliquer comme ça. Ça devient plus facile à
oui,
voir.
Oui, il faut visualiser un petit peu.
Alors, parlons un petit peu du concert Miceo. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, le concert Miceo, c'est un des gros projets. On devait le jouer au printemps 2020.
Ah ben, on s'en doute, hein, parce qu'on n'arrête pas de recevoir des gens qui font des
oui,
reprises de concerts qui devaient passer en 2020.
Oui, ben puis nous, ben, y a plein d'autres concerts qu'on était capable de faire, mais on reçoit une artiste invitée qui vient de Vancouver, donc c'était compliqué de... Parfois, d'autres concerts, on peut les faire quand même, mais là, Vancouver, c'était compliqué. Donc là, finalement, on y arrive. C'est dans 10 jours, 11 jours, on
est,
9 jours. Voilà, on y arrive. Puis Miceo, Louis-Philippe et moi, on adore bien sûr la musique pour saxophone et percussion. C'est ça qu'on fait principalement. Mais on aime aussi collaborer avec d'autres artistes. Donc, on décide d'un instrument, puis on invite quelqu'un de cet instrument-là. Puis cette fois-là, c'était l'altiste Marina Thibault avec qui j'avais travaillé dans le cadre d'un autre projet. Puis on lui a dit est-ce que ça tente de venir jouer avec nous? Oui, OK. Puis on s'est construit un programme autour de nos 3 instruments. Puis quand on est arrivé, donc on a trouvé, par exemple, il n'y avait pas de pièces écrites pour nos 3 instruments. Il n'y avait pas de trio saxophone, percussion et alto. Donc ça n'existait pas. Donc dit, la seule façon de pouvoir jouer les 3 ensemble, c'est de demander à des compositeurs, des compositrices d'écrire pour nous.
D'accord.
Donc, on a commandé 2 œuvres à des compositrices canadiennes pour ce concert-là. Donc, 2 œuvres sur les 5 au concert vont être des créations mondiales, en fait. Donc, première fois que les œuvres vont être entendues.
Alors, ça se passe où et quand?
Le concert est le 16 mars prochain. À l'heure, j'ai toujours des heures différentes. C'est à la chapelle historique du Bon Pasteur, ça c'est sûr. Je vais juste vous retrouver l'heure avant de.
Oh, bah, l'heure, après on peut le chercher, savoir que c'est à la chapelle du Bon Pasteur. Alors, c'est la première fois que vous allez tous les 3 sur scène?
Exact.
Ensemble, c'est ça? Hein?
Oui, c'est ça. Donc c'est la première fois qu'on joue avec Marina. Là, on a commencé les répétitions hier. Elle est arrivée de Vancouver en fin de semaine. Puis on travaille pour les 10 prochains jours ensemble. Donc le concert est à 19h30. Voilà.
D'accord.
C'est historique du Bon Pasteur.
Alors d'après ce que vous nous avez dit, vous avez déjà joué avec elle, mais vous l'avez pas fait en trio.
On l'avait pas fait en trio. Moi, je fais également partie de l'orchestre de l'Agora avec le chef d'orchestre Nicolas Ellis. Puis Je joue la percussion dans cet orchestre. Puis Marina, elle avait fait un concerto avec l'orchestre. Puis donc, elle avait été invitée comme soliste. Puis on s'était parlé après. Puis c'est ça, on s'est dit que ça serait bien de collaborer. éventuellement. Ça fait déjà 4-5 ans. Puis là, finalement, on y arrive. Là, le projet se concrétise.
Alors, est-ce que vous avez dans la salle, vous avez déjà des connaisseurs, vous avez aussi des curieux, des gens, comment ça se passe au sortir d'un spectacle? Quels sont ce qu'on vous demande le plus ou ce qu'on vous dit de plus?
Qu'on vous demande le plus? Souvent aussi, c'est avec les... Pour les publics, c'est de rencontrer les compositeurs, les compositrices. Puis, au moins, une des deux va être avec nous. La deuxième, elle habite au Manitoba. On ne sait pas encore si elle va être capable d'être là. Mais on va avoir parmi nous Anna Sokolovitch, qui nous a écrit une pièce. Puis elle sera au concert. Elle est professeure à l'Université de Montréal. Puis elle va venir au concert. Puis c'est toujours intéressant pour le public aussi parce qu'on invite les compositeurs, les compositrices à parler de leurs œuvres.
Ah oui.
Donc, contrairement à un concert d'orchestre où, bien sûr, Beethoven ne vient pas parler de sa symphonie.
Nous, on a... Ou alors, vous me le dites, hein, parce que je lui ferai une entrevue.
Oui, voilà. Donc, nous, les gens viennent parler de leurs œuvres. Donc, ça, c'est toujours intéressant aussi de savoir, de connaître le processus de la création et tout ça. Puis, bien sûr, nous, les interprètes, on reste après pour parler avec les publics. Particulièrement ce concert-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la musique folklorique, parce que chaque pièce a une inspiration folklorique d'un différent pays.
C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai lu que ça venait de plusieurs pays différents.
Mm-hmm. Oui. Donc, on a la pièce de Anna Sokolovitch, qui est canadienne, mais d'origine serbe. Puis, sa musique, elle a beaucoup d'influence de la musique traditionnelle folklorique des Balkans. Puis on l'entend dans sa musique, malgré que c'est une musique, c'est pas de la musique folklorique, mais on sent l'inspiration. Après, on a Melody McIver, qui est une compositrice de Anishinaabe. Donc, sa pièce, elle est inspirée de chants d'amour Anishinaabe, de sa nation autochtone. Puis, elle a retranscrit ces pièces-là pour nous trois. Donc, elle a retranscrit ces love songs-là pour nous. À jouer. On a le Naturale de Berriot, Luciano Berriot, qui est une pièce pour alto, solo et percussion. Puis lui, il a enregistré un chanteur sicilien, un chanteur populaire, un chanteur folklorique, chanter des œuvres de sa tradition. Puis il a écrit, le compositeur a écrit une œuvre tirée de ces chants-là.
Ben, en tout cas, on arrive à la fin de cette entrevue. Et puis, je veux vous dire merci. Puis, merci de nous avoir donné toutes ces explications qui rendaient plus clair l'entrevue pour quelqu'un de néophyte. Voilà.
Ben, je vous remercie.
Merci beaucoup. Et puis, bon concert. En tout cas, bonne
merci
continuation
beaucoup.
À vous. Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on va se quitter avec la chanteuse Georgette qui nous chante Équilibre.
Il y a 10 000 ans déjà. Tout était ainsi bien, ça c'était avant toi. On a passé des années en parallèle sans se croiser. Et puis un lundi soir dans un petit bar, on s'est rencontrés. Quand je fais le tour du monde en voyage à Tulum, à Londres, les zigzags sur la map me mènent à toi. Même si je quittais la terre jusqu'à Jupiter, ce serait pour me perdre dans tes bras. Chaque, chaque, chaque à mon système. Jamais serai plus la même. Tes yeux bleus illuminent, j'hallucine, j'hallucine. Tu es mon équilibre. Je suis pas fan d'astrologie, j'ai jamais cru en la magie. Les contes de fées, on les comptait au petit avant d'aller au lit. Pour moi, tout était logique. Maintenant, je file plutôt cosmique. Plus on s'ouvre, plus c'est beau. Ensemble, on plane, on va si haut. Et quand je fais le tour du monde en voyage de Toulouse à Londres, les zigzags sur la map me mènent à toi. Et même si je quittais la terre en fusée jusqu'à juin.
Alors voilà, nous sommes à la fin de cette première émission, et de cette première partie d'émission, pardon, cette première demi-heure. Et puis la deuxième va être consacrée à Jamin Chtouki. Alors, Jamin, qu'est-ce que ça voulait dire ?
Ah ben je ne peux pas tout te dire, tu vas voir sur la...
Comment t'as pris ça? On t'a fait manger vegan? T'as eu une crise?
Oui et non. C'est pour ça que j'en parlerai dans la chronique. Mais du coup, je me suis dit de partir sur un sujet autre que ce que l'on entend toujours partout à la télévision, etc. Surtout en ce moment.
Merci, ça suffit.
Et puis voilà, puis j'ai eu une inspiration qui m'a amené ça. Je peux pas en dire plus, sinon je vais dévoiler mon punch.
N'en dis pas plus, regarde, on attend, restez avec nous, on a la chronique de Jamin dans un instant.
Voilà, je mangerai ma feuille parce que c'est vegan après.
Tout de suite.
Canamineux avec Arlette Farah. Comment faire pour arrêter de s'en faire? Comment faire quand ça tourne à l'envers? Hey! Des fois. Et rien à faire, comme si le monde avait la langue à taille. Au fond, je veux juste être libre comme l'air. Trouver le soleil, comment faire? Pour arrêter de s'en faire, comment faire? Quand ça tourne à l'envers. Chaque fois on croit à la vie, à la mort, j'irai peut-être en enfer, mais au moins j'aurai chaud, bien loin la misère. Voilà, donc c'est à toi.
Ah, déjà ? Ah, comme ça.
T'as vu, on fait des vers sans en avoir l'air. Trop bien.
Et donc voilà, en ce 7 mars, ma chronique sera donc la folie végane.
Oui.
Alors aujourd'hui, je vais me consacrer donc aux véganes et autres végétariens, végétaliens, flexitariens, enfin ceux qui ne servent à rien.
Dis donc, s'il te plaît, c'est pas parce qu'on mange pas de... végétariens, c'est pas parce qu'on mange pas de la viande que on est des sert à rien.
Et je sens que je vais me faire des ennemis. Ça a déjà commencé avec Arlette, mais j'assume ma bonne chair.
Non, c'est pas vrai, j'en mange quand même de la viande.
Samedi dernier, ma fille, la plus petite, a participé à un atelier cuisine.
Hein? D'accord. Alors, je vois où ça commence.
Pour contrer les féministes qui s'offusqueront à nouveau que c'est une fille qui apprend la cuisine, je répondrai que c'était la demande de ma fille qu'elle y participe. Ok, je ne peux quand même pas lui interdire sa liberté quand même.
Hein? Non.
Donc, lors de cet atelier, elle a préparé un curry de tofu.
Oh !
Oui, le tofu. Donc, elles ont gâché un bon curry d'épices avec du tofu.
Ce n'est que ton opinion.
Ben, c'est ma chronique, donc je dis ce que je veux. Je ne demande pas aux gens d'accord ou pas. Cet aliment remplace donc toute viande dans les plats. Au jour d'aujourd'hui. Hein. Ils en créent à tous les goûts. Saveurs fines herbes, saveurs saumon, saveurs fromage, barbecue. Ça. Moi, j'ai un slogan pour le tofu. Hein. Le tofu, 1000 saveurs, un seul goût, un goût de marde. Car oui, c'est dégueulasse. Ça n'a aucune saveur. Dans le plat de ma fille, je goûtais le curry, mais rien avec le tofu. Je me suis dit, tiens, ça y est, je commence à avoir le Covid, j'ai le symptôme du goût qui était parti. Hein. Les odeurs nauséabondes du compost me font plus d'effet. De plus, de récentes études montrent qu'en fait, le tofu, n'est pas si sain que cela. Oui. Il entraînerait du cholestérol, des gonflements et des difficultés intestinales. Comme quoi, nos ancêtres étaient carnivores et vivaient très bien, alors qu'aujourd'hui, les véganes et autres mangent santé et accumulent des problèmes. Et à chaque fois que des véganes ou assimilés me proposent de me convertir à leur région, à leur religion, le véganisme ou assimilé, oui, car ils sont d'une extrême intolérance, comme les religieux, dès que vous n'êtes pas du même dogme que eux. À la base, ils avaient commencé tranquille par végétariens. Puis, comme les religions, ils se sont radicalisés. Végétaliens, véganes... J'ai peur pour la prochaine étape, disait anorexique. Donc, je leur réponds que c'est pas possible, je peux pas me convertir au véganisme car j'ai une maladie de naissance, le goût. Et là, ils sont pas contents. Pas contents du tout. Comme Arlette qui me fusille du regard.
Alors, je suis désolée, je fais juste une petite parenthèse. J'ai mangé végétarien. J'ai mangé vegan, j'ai mangé avec de la viande. Il y a des tas de choses que j'aime chez les uns comme chez les autres. Voilà.
Donc je disais, je ne peux donc pas me convertir parce que j'ai une maladie de naissance, le goût. Et je vous disais donc, là ils ne sont pas contents quand je leur dis ça. Et quand je disais donc qu'ils étaient intolérants, hein,
tu
et pas seulement au lactose. Donc je vais la refaire parce que du coup elle m'a piqué, elle m'a niqué mon punch. Et donc je dis, moi j'ai une maladie de naissance, le goût. Et donc ils ne sont pas contents. Pas content quand je dis ça, hein, quand je vous disais qu'ils étaient intolérants et pas seulement au lactose. Voilà. Tu vois, elle était bonne. Mais aussi à l'intelligence, à l'humour et à la dérision. Heureusement qu'ils ne sont pas costauds non plus. Hein. Oui, parce que l'impertinence t'embrouille avec les gens. Et c'est là que l'intelligence est importante ou fait défaut, hein, d'ailleurs. Donc, en humour, je m'embrouille uniquement avec les gens qui sont sans risque. Dorénavant, je ne ferai que des chroniques sur les nains et les véganes. Je ne veux pas devenir l'Ukrainien de la radio ou du spectacle qui va se faire attaquer par une poutine.
Il viendra plus. La semaine prochaine, il est plus là.
Alors oui, le plat national québécois porte le même nom que le président de la Russie. Bah, faut choisir ses combats quand même. Donc alors, vous savez ce que c'est qu'un vegan, hein ? C'est quelqu'un qui refuse catégoriquement de manger des nutriments. Voilà, ils ont un combat, ils sont contre l'énergie. Bon, je me moque de eux, mais je sais qu'ils ont raison. Ils ont raison. Parce que quand ils discutent avec eux, ils t'expliquent que c'est mieux pour ta santé, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour les animaux. Et là, j'ai pas d'argument pour les contrer. Je suis là, ouais, mais le magret de canard, c'est vachement bon quand même. Hein. Une belle entrecôte grillée, c'est succulent quand même, non ? C'est peut-être pas bien, mais c'est bon, bordel, hein ? C'est notre seul argument pour nous, les carnivores. Hein. Oui, c'est un argument de pédophile, si on y réfléchit aussi, tu sais. Mais bon. Alors, pour la paix sociale de leur couple, pour la paix sociale de leur couple, leur conjoint étant vegan, certains deviennent vegan à la maison. Cela concerne principalement les gars.
Et pas dans les restaurants à côté.
Cela concerne principalement les gars, car les véganes sont majoritairement des femmes. Donc les gars deviennent véganes à la maison par conviction.
Par amour.
Par conviction. Oui, convaincus que s'ils ne le faisaient pas, ils ne baiseraient plus. Donc à la maison, ils sont véganes et dehors, ils font ce qu'ils veulent. C'est un couple libre si on veut, mais avec le porc. C'est pas mal. Pas trop difficile, suffit de plus aller chez soi, sauf pour baiser. Après un week-end de courgettes, le lundi, ça, c'est difficile pour eux quand même. Ils ont envie de manger des chiens, des chats. Parfois, ils trouvent même des humains très comestibles. Moi, à la base, je suis belgo-marocain. Donc pour moi, la saucisse et la merguez sont des légumes. Donc moi, je suis à moitié vegan. Je suis flexi-vegan. C'est con comme mot, hein, on est d'accord.
Oui.
Il n'existe pas, c'est une invention. C'est comme ceux qui se disent flexitarien. Ça m'énerve, c'est très con. Il t'explique. Je dis pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des fois je mange de la viande, des fois pas. Ben, comme tout le monde en fait, si tu réfléchis. Hein. C'est comme si tu disais je suis flexisexuel. Des fois je baise, des fois pas. C'est n'importe quoi comme réflexion. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est quand vous allez dans une convention de vegan. Car oui, ça existe. C'est nul, c'est chiant, c'est comme le salon de l'auto, mais avec des courgettes. Il les essaye, il les tripote, il les admire. Oh, mon Dieu, non mais tu as vu cette courgette? Wow! Je l'avais dit, c'est nul. Hein.
Oui. Je te dirai pourquoi après, mais j'attends que tu finisses.
Mais il y a aussi des trucs marrants. C'est que dans les conventions, il y a des gros. Oui,
c'est vrai.
Oui, et c'est drôle, il y en a beaucoup. C'est pas un gros perdu, genre « Oh, chouette, il n'y a pas de poutine ». Non, il n'y en a pas un en plus. Hein. Non, des tas. Alors, c'est pas de la grossophobie ce que je suis en train de faire. Non, toute ma famille fait partie de cette religion, moi y compris. Hein. Mais quand t'es gros et t'es vegan, t'as quand même bien raté ta vie quand même. Tu cumules. C'est genre « Je me suis masturbé et j'ai attrapé le sida ». C'est des choses qui sont... Hein. Vous savez le nombre de brocolis qu'il faut manger pour être gros, hein ? Il faut des champs et des champs immenses de brocolis pour ça. Alors, pour ne pas mourir idiot, j'ai voulu faire tous les restos véganes de Montréal. Parce que les restos véganes, c'est en quelque sorte les sanctuaires, les endroits religieux des véganes. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Et surtout, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Et en plus,
pour toi,
c'est trop cher par rapport à ce que c'est pas bon. Hein ? Et leur argument de vente, c'est « oui ». Mais la nourriture végane, c'est un médicament de notre corps. Ouais, bah alors je vais payer avec ma carte de la RAMQ, moi. Parce qu'une fois, c'était très beau. On voit qu'ils ont mis tout dans la décoration, mais pas dans la nourriture. J'ai payé $150. Ouais. Et comme c'est tellement pas bon, moi je croyais pas que ça allait coûter du vrai argent. Et moi j'ai fait le fou. Allez, supplément de courgettes, triple ration. Et à la sortie, $150. Les gars... Si vous voulez qu'on devienne tous vegan, mettez le prix des légumes au prix des légumes, en fait, ok? Vous imaginez, je vais au marché qui est près de chez moi. Je vais au stand de légumes et je donne $150 au marchand. Et lui, il va me dire, ah ben là, monsieur, à ce prix-là, c'est votre stand. Hein. Vous êtes maraîcher maintenant. Hein. Il se tourne vers sa femme. Nicole, c'est bon, on peut prendre notre retraite. J'ai trouvé un con pour acheter notre stand. À $150, je souffre. J'estime qu'un animal doit souffrir en échange, ça me paraît équitable. Parole de fils de boucher. Alors, bon appétit.
Quelle horreur, on en reparle après cette chanson-là.
Si c'est faux, moi je veux jouer. Le cœur battant, la gorge nouée. Me révéler sauvage, j'ai le texte inventé. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas. Cinéma. Tant pis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur raté. Et sans maquillage, j'ai en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma. Tout jamais éphémère, mais qui éteindra en ma lumière. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, un scénario.
Alors voilà, nous...
Ah, ça débat,
pour
ça débat,
cette
là.
Deuxième partie,
on
est encore
pas, hein,
en train...
Ça débat.
Non, on débat. C'est-à-dire que ce que je voulais te dire, oui. C'est que bah, moi, j'ai mangé vegan pour quelqu'un qui m'a invité à faire de la cuisine vegan.
Mais on
et
est tous vegan, on mange tous des légumes.
Que j'avais... Non, mais la façon de le préparer... parce que vegan, c'est pas végétarien. Végétarien, on mange tous végétarien. Mais vegan, c'est quand même spécifique. Parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc... faut,
oui, c'est ce que je disais, il n'y a rien.
Tous ces manques. Si, il y a des choses, y a des choses qui sont bonnes. Et puis, je te signale qu'il peut y avoir des gens en surpoids qui ne mangent que des salades. Ça n'a rien à voir avec la viande. Ce n'est pas la viande qui fait grossir. Ceci dit, moi, je trouve qu'avec...
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça peut être d'autres graisses ou des graisses végétales, etc. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec la viande, effectivement. On est d'accord.
Ça peut être... Moi, ce que je trouve désolant, c'est qu'aujourd'hui, le personnage de Monsanto et toutes les cochonneries qu'on nous fait avaler, qu'on détruit la terre à cause de ça, je trouve ça vraiment terrible, terrible, terrible.
Tout à fait.
Parce que comme on en discutait hors antenne, il y avait quelque temps que j'avais pas mangé une bonne vraie tomate.
D'avoir le goût de la tomate et pas de l'eau aromatisée comme les fraises. Mais ça, comme je te disais en antenne, c'est pas dû au fait de ton régime alimentaire, c'est fait au dû de la société qui est devenue une société de sur-consommation où il faut absolument produire. Les gens veulent des fraises au mois de décembre. Les gars, c'est pas possible.
Mais oui, mais alors il faut aussi aussi apprendre que les choses arrivent. Il y a des mois dans l'année, dans ces mois dans l'année, il y a des choses. Et puis si on veut absolument des fruits tout le temps, eh ben, au Québec, ils produisent des pommes toute l'année. Donc ça, on peut en manger, puis c'est bon pour la santé.
Ils ne les produisent pas. C'est qu'ils les produisent au temps où elles doivent être faites, ils les récoltent, et ils ont trouvé des moyens de les garder sans qu'elles ne se détériorent. Parce que je me suis renseigné pour ça, je me dis comment. Par contre, les autres, fait sous serre, etc. Ouais, mais ce n'est pas la saison. Donc,
c'est
comme pour la viande. Il y a de bonnes viandes, il y a de mauvaises viandes. Acheter une viande à IGA, non, n'achetez pas. Acheter chez un vrai boucher, un vrai éleveur. Quand je disais un magret de canard, moi j'ai découvert le magret de canard à passer 20 ans, parce qu'en Belgique, on n'en avait pas. C'est quand j'étais à Toulouse, Puis avec mon copain, mon partenaire de scène, dit tiens, on va aller faire un tour dans le Gers, au sud de Toulouse.
Ah bah alors là.
Et on prend les petites routes et on voit des panneaux avec attention canard, comme ouais. D'ici attention Rignal. Je dis tiens, ils se foutent de notre gueule ou quoi. Et t'es obligé de t'arrêter parce que t'as des canards en liberté, ils traversent la rue, la route. Tu dois t'arrêter, mais c'est pas un ou deux ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah il vient de la ferme qui est là. On va à la ferme et de là, on a vu du vrai magret de canard. On a vu les canards qui étaient donc en liberté. Et là, tu te dis bah oui, mais l'animal il est pas en train de souffrir là. Il est en liberté, il fait ce qu'il veut, il est respecté. On doit le tuer pour le manger, mais on fait ça depuis l'âge préhistorique. Les animaux le font aussi. C'est dans notre nature, entre guillemets.
Oh, mais bah, y a des...
mais c'est la manière après d'aller dans l'industriel voilà, qui est dérangeant.
Ce serait l'occasion de toute une émission, puis on n'aurait pas le temps de ça.
Tout à fait.
Mais et c'est juste... vrai qu'il y a des choses qui sont abominables, qui sont faites
voilà. Les trucs
poulets,
industriels,
trucs,
voilà, exactement.
Une abomination.
Je le dis à la fin, je suis un fils de boucher. Moi, avoir une viande quand il la cuit, qui regorge d'eau, de sang, etc., c'est, je la jette à la poubelle. Ouais. Parce que la viande, elle doit être ce qu'on appelle, et maintenant c'est comme le bio, tu sais, une viande normale, on te la fait payer plus cher parce qu'elle est maturée.
Oui.
Moi, mon père, on avait des chambres froides énormes, on achetait les carcasses, on laissait les carcasses pendant 3 semaines, elles se vident justement du sang, du liquide, etc. Et après seulement, on les découpait, on les vendait. Tu cuis ton steak, il n'y a rien qui coule. Et tu sens le goût de la viande.
Ah oui, oui.
Et c'était le prix normal. Au jour d'aujourd'hui, on veut tout, tout de suite. Et on en paye les pots cassés. Donc oui, il y a une idéologie. Oui, il y a un truc de santé publique. Mais mon propos n'est pas contre les véganes. C'est, je m'en moque, c'est mon impertinence. C'est par contre, et c'est ça qui était important à retenir, c'est que ça devient de l'intolérance. Parce que du coup, ah oui, mais vous participez à, pour nous les carnivores, entre guillemets, et... je te disais, on était sur une imposition d'opinion.
Oui.
Et c'est, non, je vous respecte, vous me respectez, je vais manger chez quelqu'un qui est vegan. Ok, tu manges vegan, je ne veux pas manger de la viande si ça te dérange. Par contre, je viens chez moi, je te fais un plat vegan, mais ne m'empêche pas de manger de la viande parce que toi, ça te dérange. C'est là où, c'était ça mon propos.
Je comprends.
Voilà, et c'est là où je dis, attention, respectons les uns les autres. Vous êtes vegan, flexitarien, tout ce que... En plus, pourquoi inventer 46 noms différents? Parce que... Et c'est là que je parlais d'extrémisme. Toi, t'es végétarien. Ok, c'est bon, on a compris, t'es contre la viande. Ah mais non, après, c'est tout ce qui découle d'eux.
Tout ce qu'il y a. Mais de toute façon, ça pourrait découler sur autre chose de bien plus grand. Et j'adorerais faire une émission là-dessus un jour. C'est sur le fait d'accepter la différence. Pas seulement d'accepter la différence de l'individu qui est en face de toi, mais accepter la différence dans tous les moments de ta vie.
Oui, les
chacun
opinions,
est en droit de faire à partir du moment ça s'appelle la tolérance,
la tolérance.
Je suis d'accord. À partir du moment où on ne t'oblige pas à faire quelque chose, c'est ça l'acceptation de l'autre. C'est pas aller chercher quand on part en vacances,
oui.
On dira pas qui, mais quand on part en vacances et puis vouloir trouver absolument ce que tu manges chez toi, ça sert à rien d'aller loin.
Et écouter les autres avec respect et respecter leur opinion. Avoir ses propres arguments, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que je suis contre cette personne,
voilà.
Mais j'ai le droit de ne pas avoir la même opinion, de pas faire les mêmes choses dans la vie, tout en respectant les leurs. C'était ça le propos de mon impertinence.
Tout à fait. Alors pendant que tu faisais ta chronique, en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas annoncé les chansons qui sont passées depuis le début de ta chronique.
J'étais tellement perturbé.
C'était tout. Alors au départ, il y avait Miels qui chantait « S'envoyer en l'air ». Là, on avait entendu Clou qui chantait comme au cinéma. Il faut quand même que je le dise parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais rien annoncé du tout. Et puis là, on va... Alors là, je comprends pas tout ce qu'il m'a écrit, notre cher technicien Nicolas. C'est Antoine Beaumont et Vaisoli, c'est ça?
Exactement.
Ah ben c'est bon, mais tu vois, finalement, je comprends ce que tu as écrit. Et ça s'appelle Vengeance tardive et je pense que c'est ce qui va me faire un de ces jours. Après, je m'en rappellerai plus et clac.
C'est pas grave, moi je t'amènerai une vendange tardive pour compenser.
Oh ça, c'est bon.
Qu'à des titres en anglais bon. La prochaine fois.
Oh oui.
Tu vois, ça sera vraiment de la vengeance tardive. Alors, on y va, on part en musique. Merci Nicolas.
L'arme est à gauche, la fourche est agressive. Heurte à toute heure et brise le cœur des sages trop pariés. Ces villes menteurs, pas d'amuseurs, me voilà assurés.
heureux déjà. C'est insolent, riez tellement quand j'écrivais ma vie. Mes joies, mes peines, mes femmes, mes reines sur ces tristes mélodies. Chantez, j'en doute, gouaillez sans doute. Quand je serai mauvais, madame.
Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Alors quand même, Jamin, on dit merci à David Terrien-Brongo parce qu'on lui a demandé pas mal d'explications sur une musique qu'on ne connaissait pas suffisamment. Et il a été très généreux là-dessus et très clair, il faut le dire.
J'ai tout compris. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur ?
Si Jamin Chtouki a compris, qu'il a été vraiment très clair.
J'ai peut-être pas tout retenu, mais j'ai tout compris. Bravo, monsieur. Vous avez très bien vulgarisé votre
puis,
art.
Il était... C'est pas souvent, parce que des fois on peut avoir des personnes qui sont plus hermétiques, mais lui il a été très clair là-dessus. Merci beaucoup, David. Merci, Jamin.
Avec plaisir.
Merci, Jamin Chtouki. On sait qu'on ne t'invite pas dans un restaurant vegan, mais de toute façon, je ne comptais
pas
t'inviter au restaurant non plus.
Vous pouvez, mais je ne suis peut-être pas certain de venir, en fait. Ou alors je viens avec mon McDo. Comme ça, je vais bien énerver tout le monde.
On dit merci à Nicolas Wartman, puis on le dit gentiment parce que je ne voudrais pas qu'il me foute que des titres en anglais demain. Et pour la technique et pour les chansons, merci Nico.
Merci.
Et puis merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. Alors, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et merci d'avoir été là. Au revoir, bonne soirée.
Bye bye bye.